L'actualité sur PFM 99.9. Bonjour à toutes et à tous. Avec nous au débat, Sarah.
Hello.
Deuxième Sarah.
Salut.
Alexis.
Salut.
Et notre invité Tanguy.
Salut.
Pour une émission sur un vaste thème, l'éducation en France et dans le monde. A tout de suite. Je propose de débuter tout de suite le débat parce qu'on est un peu pressé. Après, il y a bac blanc et tout ça. Voilà, les choses sérieuses commencent. Il va falloir bosser.
Le stress du bac.
C'est ça. Alors, tout d'abord, vous, en tant que lycéen, est-ce que vous êtes directement concerné par ce sujet, donc l'éducation vous vivez. Est-ce que vous êtes vraiment scolaire? Vous vivez en fonction de l'école?
Bah, moi, je trouve qu'on n'a pas vraiment trop le choix. Enfin. Enfin, jusqu'au lycée, on n'a pas vraiment trop le choix parce que avec les horaires de cours et tout, les bus si on habite loin. Perso, moi, ma vie en semaine, à part le bahut, il y a pas grand-chose. Hein. Le week-end un peu plus peut-être, mais après, je sais pas vous.
Ouais, on est obligé d'adapter notre vie aux cours, quoi, parce que bon, par exemple là, on est là, mais on doit se dépêcher après, bac blanc de français, voilà. On est obligé de s'adapter, de modifier nos activités en fonction des cours. Donc oui, on est vraiment impacté par le land. Par ce bahut où on reste je sais pas combien d'heures par semaine.
Moi je suis d'accord pour tout le monde, à part si vraiment quelqu'un se destine à faire des études spécialisées dans l'art, la danse ou les choses comme ça. L'école c'est pratiquement toute notre vie quand on est enfant, déjà avec la pression des parents, des profs, ils ont beau dire ouais les notes ça fait pas tout, faut pas se leurrer derrière, c'est toujours ce qu'on nous dit quoi, c'est ce qu'on ressent nous. Donc je pense que ouais c'est enfin franchement quand tu demandes à quelqu'un comment c'était sa jeunesse, il te répond bah moi l'école ça allait plutôt bien.
Ouais, c'est vrai ça en plus.
Vous Tanguy. Gérez comment le... Ah, Tanguy.
Tanguy, t'as pas dit tes réponses?
Bah, de toute façon, même en vacances, hein, l'école, c'est... on fait le décompte jusqu'à ce quand est-ce qu'on va reprendre les cours.
C'est pas ça. C'est quoi les devoirs pour la rentrée?
Si, l'école, ça prend une grosse part de notre vie. Après, je pense qu'on a quand même, des extras à côté, mais c'est sûr que c'est omniprésent toute la journée.
Ah, l'intello.
Un peu.
Ça vous stresse, vous, d'avoir en tête que l'école?
Bah, pas que l'école non plus, hein, ça, on n'est pas des psychopathes non plus. Mais il ouais, bah, y a des gens stressés de nature, il y en a d'autres moins, donc on réagit différemment, je trouve.
Mais personnellement, toi, t'es stressé, non. Tu t'en fous. Ils s'en foutent complètement. Et toi, ça va?
Bah, moi, personnellement, l'école, ça me stresse pas trop parce que j'ai tendance à réussir sans trop fournir d'efforts.
Non, mais... Le melon, hein.
Le ouais, melon. Les chevilles.
Mais non.
On rigole.
On m'a demandé mon avis.
De toute façon, ils sont
moi,
jaloux, faut pas chercher.
Ouais, Alexis, voilà, j'en ai un qui me comprend. Non, mais c'est vrai, je vais pas vous dire que moi, je suis stressée à travailler tout le temps, c'est pas vrai du tout. Mais je veux dire, du coup, moi, je suis... Enfin, l'école, ça me stresse pas tant que ça, comparé à d'autres que je vois qui bossent tout le temps et qui ne pensent qu'à ça. Là, oui, c'est des gens plutôt stressés, mais moi, ça me stresse pas trop.
Ça, c'est parce que vous n'êtes pas encore en terminale. La terminale, le problème, c'est que tu n'es pas stressé à cause de l'école, tu es stressé à cause des notes et des appréciations qui vont mettre dans ton dossier pour plus tard.
Et les concours aussi. Hein,
et les concours, les concours.
Est-ce que vous appréciez, vous, ce système de notes?
En fait, le problème, c'est qu'on nous dit tout le temps, ouais, les notes et tout, ça ne montre pas ton vrai niveau, les gens ne le voient pas par rapport à tes notes et finalement, on ne voit qu'à partir des notes. Hein. APB, ça fonctionne aux notes. Hein. APB, le gars, il ne verra jamais ta face avant d'arriver au PAU. Donc c'est pour ça. En fait, c'est pas trop le choix, mais en même temps, c'est ça le plus stressant, c'est de se dire que ton avenir repose sur des notes.
Après, le problème avec les notes, c'est que par exemple, pour toutes les... Sauf pas pour le lycée, mais pour tous les autres écoles, on veut enlever les notes, etc., mais en les remplaçant par des systèmes qui sont pas forcément meilleurs. Donc, les notes, en soi, c'est bien. C'est le moins pire des systèmes de... pour reconnaître ton niveau, en fait. Parce qu'à part ça, je vois mal comment tu peux faire.
Bah, moi, personnellement, je trouve que les notes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se basent là-dessus pour plus tard, même notre vie plus future, etc. Et pourtant, c'est pas du tout objectif comme notation parce qu'il suffit que derrière, je sais pas, déjà que t'es de la famille qui a un souci ou même que t'es des soucis personnels. Ou... Et juste sur cet interro-là, par exemple, tu vas te taper une mauvaise note parce que t'étais pas dedans ou alors t'avais mal dormi. Il y a tellement de raisons. Ou alors même le prof était pas en forme ou alors la prof, elle avait ses règles, j'en sais rien.
D'accord.
Non, mais... On est d'accord, Sarah. Il y a plein de choses
Il y a des milliards de critères qui rentrent en jeu.
Voilà, qui font qu'une note, elle n'est pas forcément objective.
Elle fait appel à la solidarité féminine.
Bah, je me sentais pas soutenue par vous.
Après, le système de notation, il varie énormément en fonction des professeurs et en fonction des établissements scolaires.
Ouais, c'est pas
on
fait.
Le sait. Après, il existe une différence entre public-privé, ça c'est sûr. Et il existe une énorme différence entre un professeur de maths et un autre professeur de maths. Enfin, moi j'ai fait un bac L, donc ça fait longtemps que j'ai arrêté.
Ça concerne.
Mais bon, il y avait une étude qui, il y a quelques années, a prouvé qu'au baccalauréat, il pouvait y avoir une différence jusqu'à 10 points sur un baccalauréat de maths entre deux professeurs. Ce
oui,
qui
ils
est
ont,
énorme.
Oui, oui, bah, ils ont fait corriger comme ça, avec ces études-là, les mêmes copies par des profs ouais, différents. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est flagrant.
Vous voulez pas vous retourner comme en primaire au système des petites étiquettes colorées
les images. Pas, moi, j'avais pas ça en primaire, donc j'en sais rien. Mais...
Moi, personnellement, je trouve que... Non, moi j'avais
des notes, c'était sur 10, c'était la seule différence, mais
ouais,
j'avais des notes
aussi.
Tout le temps.
Ah non, j'avais même des notes sur 20, moi. J'ai eu la même notation tout le long de ma scolarité.
Mmh. Ouais, enfin, après,
aussi
ça dépend
des
écoles.
A, plus,
mais c'est pas le sujet.
Mais les bons points.
Et les bons points,
10 bons points,
une image.
Collection ouais. d'images, les gars, quand même.
Pour en revenir au débat vite fait.
Arrête, éducation un peu.
Oui. Ah, moi, je trouve que les notes, personnellement, ça nous met trop dans l'objectif d'apprendre pour avoir une bonne note. Ce qui fait que l'élève, il va non pas apprendre pour, je sais pas, pour le plaisir d'apprendre, de savoir des nouvelles choses ou même que ça soit utile dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, ouais, j'apprends parce que j'aimerais bien avoir une bonne note. Au pire, pour avoir ma nouvelle console à la fin du trimestre, mais ça s'arrête là, quoi. C'est tout. Le lendemain, t'oublies, t'es content. C'est l'objectif.
Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que parfois, par exemple, je sais pas, par exemple, en sciences-vie, parce que ça m'intéresse, je peux aller regarder des choses en rapport avec le cours pour une interro. Et qu'au final, ça m'intéresse et que je fasse des recherches après.
Oui, ben ça, on est d'accord, moi aussi. Mais franchement, tu vas pas me dire que t'apprends juste parce que t'es content d'apprendre.
Bah non, j'apprends pas.
Non, mais c'est
est-ce que vous êtes... nous les génies, hein.
Vite fait, vous êtes pour ou contre revenir aux anciennes notations étiquettes rouge, verte et orange? Sarah, d'abord.
Pourquoi moi d'abord? Mon Dieu, regarde Tanguy, il a envie de parler. Non, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ça, c'est pareil, ça dépend toujours de la notation. Ce serait quoi, vert, t'aurais quoi entre 20 et 17 ? Et orange, t'aurais entre 15 et je sais pas quoi ? C'est toujours pareil.
Ouais, c'est...
Ouais, c'est ça le problème avec les systèmes de notation, c'est qu'à chaque fois, par exemple, ils voulaient changer en acquis, en cours d'acquisition, non acquis, etc. Mais c'était toujours par rapport à une note, en fait. Par exemple, en dessous
ouais,
de 8,
exactement.
C'est non acquis, entre 12 et 8, c'est en cours d'acquisition.
Voilà.
Sauf que du coup, c'est la même chose en moins précis.
Voilà, c'est exactement ça.
Ok. Est-ce que vous pensez que les institutions scolaires en France, en général, mettent tout en œuvre pour assurer l'épanouissement de l'élève ?
En fait, je suis en train de penser à un truc sur la question d'avant. Que, oui, mais je réfléchis entre
toujours
deux.
Toujours en retard, c'est pas possible.
Oh là là.
Mais non.
Je pense
qu'en fait, il devrait carrément pas y avoir d'éval. Mais juste que en cours, en fait, comment l'élève participe ou je sais pas. Vraiment centrer les cours sur les élèves. Bon, dans l'idéal, il faudrait avoir des classes moins nombreuses, mais que le professeur en fait soit capable de voir les difficultés d'un élève par rapport à comment ça se passe
avoir
en classe.
Avoir des profs psy, quoi. C'est ça l'idée.
Non, mais aujourd'hui
en primaire, t'es comme ça.
Ils ont ça. Hein.
En primaire, t'as une classe de 20, etc. Et tu gères tous tes élèves, hein, et tu les connais, tes élèves.
Non, mais c'est ça, en fait, qu'ils soient capables de voir cet élève-là, bah, de prendre en compte aussi les critères personnels, des choses comme ça, plutôt que tout baser sur une note, vraiment baser tout sur l'élève lui-même.
Ouais, mais le problème, c'est que par exemple, t'as des profs, tu les vois une heure par semaine, deux heures.
Oui, bah ça,
et du coup,
après.
Ils peuvent pas vraiment savoir commenter, etc.
Mais au niveau de la primaire, tu vois, plutôt que de faire des notes, vraiment voir comment l'élève il s'en sort, comment il apprend, etc. Est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il sait pas faire en cours.
Ouais, mais en primaire encore, t'as la super joie d'avoir une bonne note, etc. T'es truc, t'es en 20
ça
sur 20, t'es tout
dire,
fou
hein.
Du coup.
C'est juste un chiffre et le mieux c'est quand tu te rapproches du 20, hein, point final. Hein. En primaire, ça veut juste dire ça. Hein. C'est genre, si t'as un 18, t'es content parce que bah y a que deux chiffres entre le 18 et le 20, quoi. C'est le seul truc, ça ne veut rien dire. Enfin,
à la limite, t'es content parce que t'as aucune note au-dessus de toi.
Exactement, c'est ça. C'est genre qui sera le meilleur et qui aura la meilleure note, quoi. C'est point final. Ça veut rien dire derrière. Le problème, enfin, je pense que le problème des notes aujourd'hui, par exemple au lycée, etc., c'est que c'est un facteur clé pour ton avenir. Qu'il y a des gens qui vont regarder que tes notes et qui vont pas regarder ce que toi tu fais en cours, etc., quel travail tu fournis derrière. Et je pense que c'est juste ça le problème.
Vous pensez que ça entraînait trop de compétition ? Entre les élèves.
Bah ça, franchement, oui, ça entraîne de la compétition, mais d'un autre côté, dans le supérieur, c'est la même chose. c'est toujours les meilleurs qui vont être pris dans les plus grandes écoles, c'est toujours les meilleurs qui vont être pris en priorité dans une entreprise, c'est toujours
les
meilleurs.
Oui, mais il y a une différence entre les écoles supérieures et le primaire.
Oui, on est d'accord qu'il y a une différence, mais tu parlais de compétitivité, oui, il y en a, mais elle est présente tout du long, ça. Peut-être, bah, j'irai peut-être moins en primaire, mais au plus t'avances et plus tu te dis, pour réussir dans la vie, il faut que je sois meilleur que d'autres, quoi.
Après, certes, ça amène une compétitivité, mais c'est pas mauvais, en fait.
T'es pour la compétitivité,
bah oui, comme ça,
déjà
Bah oui, tout le monde a envie, si t'es compétiteur, t'as envie de battre les autres, de faire mieux, de...
Oui, mais il y en a d'autres en primaire qui veulent pas avoir un métier énorme, genre, je sais pas, moi, qui veulent pas faire des études
de médecine.
De toute
façon, en primaire, on veut tous être pompiers,
hein,
de toute façon. Cowboy.
Ouais, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié.
D'accord, c'est super.
Si, la compétitivité, oui, je pense que c'est pas tout le temps positif. En fait, c'est positif si t'es dans les meilleurs. Parce,
ouais,
que,
c'est pas beau, ça.
Parce que c'est carrément, ça joue sur ta mentalité, sur, ça joue beaucoup quand même. Tu te dis, ouais, je suis meilleur que les autres, t'as un plus. Et imagine tes derniers de classe. Bah, laisse tomber, quoi.
Ça fait mal,
pour
hein.
toi, t'as. Bah, dernier de classe, c'est moi, je joue
grave mal,
franchement.
Hein. Non, mais vous vous rendez pas compte, ma sœur, elle a été dernière de classe pendant au moins 5 ans de sa vie. Laisse tomber, hein, les notes, au bout d'un moment, elle faisait même plus des interros. Hein. Genre, elle était là en mode, tu fais quoi? Bah, je fais pas
des
interros,
c'est ça, ça se décourage. Quand
mais
t'arrives
c'est vrai,
pas à monter,
au bout d'un moment,
découragée.
C'est clair. Et en voyant les premiers faire la compétition sans toi, et en train de se dire, ouais, et tout, t'es nul, t'as eu 17, et toi, t'es là en mode, j'ai eu 3.
J'ai eu 3 et je
non mais vraiment je connais des gens ça les a enfin pas brisés mais ça fait pas du bien quoi d'être dans les derniers de la classe et voir que en fait les gens ils te jugent à cause de tes notes ça franchement des fois ça fait pas du bien
mais surtout que la primaire c'est au début juste pour améliorer pour un peu s'adapter dans la société bon les trucs de base lire écrire voilà. C'est pas non plus pour des gens qui sont faits pour faire des études de médecine ou bien de journalisme ou j'en sais rien. Il y a aussi des futurs agriculteurs ou j'en sais rien, ou garagistes.
Et il
n'y
a pas de
primaire. J'ai jamais dit ça.
Pourquoi tu parles comme ça des agriculteurs?
Bah ouais, ça va, j'ai jamais dit ça. Mais non, c'est juste qu'il y en a en primaire, ils veulent juste faire le circuit primaire, le collège, puis après ils s'en vont, ils sont plus manuels, ils sont... L'école, c'est pas leur truc. Donc, avoir déjà de la compétition en primaire.
Voilà. Bah, moi, je trouve en primaire. Surtout aujourd'hui, je sais parce que j'ai une mère qui a été enseignante longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se développent pas trop autour des. Enfin, je sais que ma mère, en tout cas, elle faisait beaucoup d'activités hautes, par exemple, avec ses élèves. Elle allait souvent, elle avait créé un petit potager et très souvent, ils allaient. Même moi, je l'ai fait avec elle. Ils allaient. Cultiver des trucs dans le potager, etc. Ça les rendait tout contents. Ils faisaient un truc concret, en fait. Et je trouve qu'on est beaucoup plus dans le concret en primaire que plus tard aujourd'hui. Moi, franchement, je me demande où je vais placer dans ma vie mes cours de maths. Honnêtement, il y a des fois, je me dis, mais merde, ça va me servir à quoi plus tard? Même au collège, des fois, je me demandais ça.
Rien. Ça sert à rien.
Ah, faut pas dire.
Parce que le français, ça sert à quelque
mais,
chose.
Non, mais je dis pas que ça sert à rien.
Non, il faut pas non plus tout critiquer. Il faut pas non plus tout critiquer.
Pour langue.
Je dis pas que ça sert à rien. Je dis qu'on nous montre pas à quoi ça sert.
C'est pas faux.
Ça va servir si on nous l'apprend. Je pense que ça peut nous servir dans certains métiers. Sauf que ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, ou même. Enfin, je sais pas, même au collège, quand tu fais des maths et que tu te dis, de toute façon, moi, je vais aller en L, t'as pas envie de faire des maths, quoi. Tu te dis, ça va me servir à rien.
C'est vrai.
Donc,
c'est absolument vrai.
C'est facile, c'est pareil pour les S, enfin, ceux qui se destinent à une S pour le français, quoi. C'est pareil.
Après, tu prenais l'exemple des maths, mais le principe des maths, c'est d'être de la théorie. Si tu veux les appliquer, par exemple, pour la science-fille, pour des trucs comme ça, là, t'as des trucs concrets. Pour les maths, c'est le principe même des maths, c'est
d'être
de la théorie.
Sauf que ça ne plaît pas aux gens, les maths, et tout se base sur les maths. Attendez, on a fait une étude quand même qui est passée aux infos il n'y a pas longtemps, comme quoi les élèves français étaient les moins bons en maths des Européens.
T'inquiète,
si vous
j'en
avez
parle
su.
Après.
Ah d'accord.
Ça va aller.
Bah voilà, c'est quand même... Enfin, je sais pas, pourquoi un truc qui est aussi théorique prend autant d'importance et tout, tu bases tout sur les maths pratiquement.
En fait, les mathématiques... Enfin... Dans la théorie des mathématiques, c'est censé t'apprendre une sorte de une réflexion mathématique en fait qui doit t'aider ensuite à aborder les problèmes de la vie avec une certaine logique
ouais.
mathématique. Moi personnellement, ça n'a pas marché pour moi. j'ai fait un bac L, hein, mais c'est ça, non, la théorie du personnel d'éducation.
En fait, je pense que les maths, c'est comme, enfin, maths, sciences physiques, peut-être pas SVT, etc. Mais par exemple, les manip en sciences physiques, je pense que ça t'apprend juste la rigueur. Et pareil pour les maths. Les maths, c'est un raisonnement, ça va de là à là. Et si tu te gourdes dans une étape, t'as plus bon dans ton raisonnement. Je pense qu'en fait, c'est pour ça que c'est si important. Tu sais, par exemple, les maths en primaire, etc. C'est pas forcément important pour on va apprendre les tables de multiplication, etc. Voilà, je pense que c'est ça pour t'apprendre la rigueur.
Ouais, bah, il y a quand même des. Franchement. Avant, je dirais, avant le lycée, en maths, on s'en sert quand même dans la vie de tous les jours.
Ouais,
bah, après, ça dépend des métiers. Genre, quand on est menuisier ou quand on est architecte, les maths, on s'en sert beaucoup pour les mesures, avec les théorèmes, Thalès, Pythagore, tout ça. On s'en sert beaucoup. Même l'étape de multiplication, on s'en sert tous les jours sans vraiment s'en rendre compte. Mais c'est vraiment les choses plus poussées qu'on voit en S ou dans les études supérieures. Moi, j'arrive plus à faire les liens entre la vie réelle et mes cours de maths, quoi.
Mm. Bon, après, ça, c'est ton avis. Et puis, ça dépend aussi des profs. Qui font des liens avec le concret ou pas. Voilà. Question suivante. Celle que j'avais posée il y a 5 minutes.
Non.
Non, mais est-ce que vous pensez que les institutions un peu scolaires de l'État en France servent à l'épanouissement de l'élève?
Bah oui, tu es en contact avec plein d'autres gens, que pas forcément du même, par exemple, du même milieu social, même si bon, ça se réduit petit à petit quand même. Mais oui, t'es en contact avec des gens, du coup forcément tu t'épanouis, tu vois des gens différents que t'apprécies, que t'apprécies pas. Donc oui, t'apprends des choses, etc. Et du coup, oui, forcément, il y a un certain épanouissement.
Non, je suis pas d'accord.
T'es jamais d'accord.
Bah, c'est le principe, hein.
Laissez parler Sarah.
Je pense que l'école, c'est la base du moule de la société. C'est-à-dire que c'est à l'école où tu vas apprendre... inconsciemment les critères pour être dans la société plus tard, en gros. Les enfants différents ont beaucoup de mal à s'intégrer à l'école. Et je parle pas forcément des enfants dyslexiques ou des choses comme ça, parce que c'est limite aujourd'hui, tu dis t'es dyslexique, oh bah c'est pas grave, t'inquiète pas, je lirai pour toi. Ou même t'es, je sais pas, même t'as une maladie qui peut être mentale ou autre chose, on la prend en charge. Moi je parle plutôt d'autres enfants qui sont assez handicapés dans la vie de tous les jours et surtout à l'école et qui sont pas du tout connus et pris en charge, c'est les enfants surdoués. Ça c'est hyper, c'est pas très courant et pourtant t'as plein d'enfants précoces surdoués à un potentiel inimaginable qui sont complètement gâchés parce qu'en échec scolaire, parce qu'on pense qu'ils sont plus souvent ils sont dyslexiques en même temps ou des choses comme ça et ils s'épanouissent pas ces enfants là. Parce que déjà, on sait pas trouver ce qu'ils sont vraiment. Ils sont en échec scolaire. Et en plus, ils sont en échec scolaire et on leur dit « Ah bah, t'as un QI supérieur à la normale. Elle est où la logique ?» Tu te dis « Ouais, je suis en échec scolaire, c'est peut-être parce que j'ai un problème et tout. Oui, t'es surdoué. »
Mais il existe des écoles pour les surdoués.
Ouais,
oui, mais pas assez.
Là, c'est le problème du programme qui adapte pas les bonnes...
On sait pas les suivre, ces enfants-là. On sait pas les détecter, déjà, pour commencer.
Alors, on sait pas les détecter. Et je pense qu'à partir du moment où un élève est détecté, comme par exemple, là, tu parles du QI et tout, ton fils ou ta fille a un QI beaucoup plus élevé, je vois déjà pas pourquoi tu le laisses dans une école publique ou même dans une école privée où les cours ne sont pas du tout adaptés à son même...
Mais parce que dans la tête des parents, c'est exactement pareil. Il a un QI supérieur à la normale, je comprends pas pourquoi il s'en sort pas. C'est ça. Mais
justement, il s'en sort pas parce que les cours, c'est trop.
Oui, mais ça, justement, en fait, les parents le savent
mais
pas.
Si, c'est ça. Hein. En fait, en général, les surdoués, ils sont en échec scolaire parce que, au bahut, ils se font chier. Enfin, faut le dire. Hein. Ils écoutent pas ce qui se passe parce qu'en fait, ils ont déjà les réponses dans leur tête, c'est clair. Et ils ont pas besoin de débattre, par exemple, sur un problème de maths et tout, où 32 élèves vont rien comprendre parce que eux, la solution, elle est logique dans leur tête. Et c'est pour ça qu'en fait, ils lâchent le truc parce qu'ils se disent, ça sert à rien que je suive de toute façon, je comprends. Je viens ici pour faire acte de présence et dire, je vais à l'école. Mais à part ça, il fait rien d'autre. Hein. Il a compris.
Bon, pour revenir à la question, parce que je digressais beaucoup, hein, mais je pense que l'épanouissement de l'élève, elle n'est pas forcément toujours présente à l'école, mais l'école, ça va aider à ce que plus tard, on ait un épanouissement, tout du moins matériel, c'est-à-dire que notre existence, elle est basée sur notre existence, notre bien-être, il est basé sur nos conditions matérielles d'existence, donc nos conditions matérielles de confort, et l'école, ça va nous aider à trouver un métier, ce qui... potentiellement peut nous donner de l'argent, et l'argent va nous aider à mieux vivre, et donc va nous aider à nous épanouir. Et c'est un peu moche à dire, mais c'est vrai que l'école, ça va nous aider à trouver un métier plus tard, et que donc, par cause à effet, ça va nous aider à nous épanouir.
Bah, je suis d'accord que quand on est à l'école, ben, plus tard, dans la vie adulte, je dirais que les deux gros points pour... même trois pour être épanoui, c'est avoir un métier, avoir une relation stable avec un conjoint et à la limite avoir une famille. Je trouve que, enfin, pour moi, c'est une fois que t'as un métier, une famille, ta vie elle est correcte, quoi, elle est même bien. Mais à l'école, c'est vrai que tu penses pas du tout à tout ça, tu t'en fous un peu. Du coup, je dirais que l'épanouissement à l'école, il se limite à tes copains. Quand tu t'entends bien avec tes amis, etc., bah ça va, t'as ta place, t'es content. Et même pas, je dirais même pas forcément aux notes, il y a des gens, ils s'en fichent complètement, mais je dirais quand même d'un côté les notes, puisque bah, ça te permet d'être bien vu, ou même de te rassurer pour plus tard, comme ça mène à la vie future. Je suis d'accord que quand on est enfant, c'est plutôt ça l'épanouissement.
Je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que l'épanouissement, quand t'es à l'école, ça passe pas forcément par les cours, etc. Enfin, ça formera ton épanouissement plus tard, on va dire ça comme ça, mais quand t'es dans l'école, je pense que c'est juste les gens qui t'entourent. Les professeurs, enfin, je pense que quand tu parlais de l'école, tu parlais aussi du corps enseignant, etc. Et moi, je trouve que le corps enseignant, il est pas souvent là.
Ouais, enfin, là, faut faire attention à la critique aussi. Ça, c'est ton cas. Après, y a pas que les enseignants.
Non, je sais. Non, c'est même pas ça. Mais en fait, je trouve que, enfin, c'est dur aussi pour eux de faire du cas par cas, etc., et d'accompagner les élèves. Ça, on est bien d'accord. Mais y a vraiment des profs. Et je parle.
Y a toujours des cas particuliers.
Ouais, mais enfin, c'est devenu une sorte de cas général. En fait, les profs, par exemple, là, dans les lycées et tout, ils se disent, bah, ils sont autonomes, ils ont plus besoin de nous. Du coup, en fait, ils filent leur truc. Vous avez des questions? Non, bah, on part, quoi. Et je pense que ça favorise pas l'épanouissement à l'école. Je pense qu'au contraire, t'es plus épanoui, par exemple, comme le disait Sarah, avec tous tes potes, etc., les liens que t'as autour, que juste en étant en classe. En fait, je pense que l'épanouissement dans l'école, ça passe pas vraiment par l'école.
C'est la vie sociale que tu mènes, ouais, en fait. Voilà. Et à la limite, c'est les activités extrascolaires.
Exactement,
quoi.
Les activités qui proposent à côté. Passion. Comme par exemple ici, genre l'épanouissement, ça pourrait être la radio pour nous, ou encore les cours de musique pour certains, etc. Mais c'est vraiment les options. L'épanouissement, si tu prends pas d'options, t'as du mal, quoi, je trouve.
Après, même si on peut s'épanouir, même si de toute façon, je vois pas trop de jeunes qui s'épanouissent vraiment en cours. Je dirais que c'est plutôt en trouvant leur place dans une série particulière, genre ESL ou S, ou même les séries technologiques. Mais les cours, ça pèse quand même sur ton bien-être. Parce que ça, on parlait des derniers de classe, ou même des élèves qui n'y arrivent pas, qui font tout et qui n'y arrivent pas, ça joue quand même sur ton moral, même ailleurs, quand tu n'arrives pas à avoir une bonne note pour plaire à papa-maman, ou c'est... T'as l'impression de pas vraiment être à la hauteur de ce qu'on attend de toi, enfin, et je pense que ça joue quand même sur l'épanouissement.
Si t'es stressé par tes parents, ça c'est aussi ton cas. Je propose de faire une courte pause pour reprendre le débat par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez?
On est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Ça marche.
Très bien, bon bah tout de suite, Sarah, tu annonces la couleur de la musique.
Alors nous allons vous passer Jean Balthazar de Beverly Joe Scott et Arnaud.
Je connais pas, on va découvrir.
Découvrons ça.
À tout de suite.
Je l'ai vu au petit matin, tout nu dans mes grands souliers, placé devant la cheminée, pas besoin de faire un dessin. Fatigué, j'ai la gueule de bois. Sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Contre elle, je me suis penché. Et sa beauté me a rendu muet. C'était la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Foucault. Elle s'appelait Marie Noël. Je m'appelle Jean Balthazar. We'll be right back.
scissors while pulling the waiters. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie.
Sur PFM 99.9, vous êtes avec l'Actualiteam. Clémence nous a rejoint.
Coucou.
Nous sommes aussi avec Sarah.
Hello.
Deuxième Sarah.
Coucou.
J'en fais tomber ma bouteille. Et Alexis.
Salut.
Et puis pour finir, notre invité, Tanguy.
Salut.
Pour une émission sur l'éducation dans le monde et surtout en France, nous avons fait la première partie où nous nous sommes intéressés plus sur le système de notation. Avec les notes. Maintenant, petite question pour reprendre le débat, si vous le souhaitez. Vous le souhaitez ?
Non.
Merci. Toi, tu viens d'arriver, ouais. Tu vas partir tout de suite.
Voilà, donc,
c'est bon, j'avais DS de philo.
Voilà. On applaudit tous Clémence parce qu'elle a eu son DS de philo et elle l'a réussi. On applaudit le 20 sur 20.
Ouais, enfin, réussi.
Quel petit applaudissement.
C'est moins
sûr, déjà. C'est génial. Alors, pour en revenir au débat, pensez-vous... à l'école, on vous renseigne beaucoup sur l'écologie. Vous êtes touché par l'écologie à l'école.
Bah clairement oui. Hein. Oui. Je veux dire, on l'a fait en espagnol, on l'a fait en anglais au collège, et là cette année on l'a refait. Après je sais que je l'avais fait aussi en éducation civique. Alors après la manière dont on le fait, je sais pas vraiment si c'est le bon choix parce que du coup les élèves voient l'écologie comme un truc chiant et qui sert à rien parce que bah c'est les profs qui le disent donc voilà. Et c'est pas super interactif quoi quand on le fait. C'est bon, faut trier vos déchets et puis faut éteindre la lumière et faut éviter de laisser couler l'eau. Bon bah voilà, ça se résume à ça. C'est un peu dommage.
Ouais, on en parle, mais ouais, c'est pas très attirant quand on en parle. Par exemple, on l'a fait en SVT. Bon, voilà, c'était des cours sur... je sais même plus ce qu'il y avait dedans, voilà. Et du coup, ouais, franchement, on s'ennuie. La méthode, par exemple, il me semble qu'il y a quelqu'un parlé dans primaire, le petit jardin, là. Ça, c'était... Tu m'en avais parlé, toi, un coup, que ta mère faisait ça. C'était, par exemple, où on fait un petit jardin. Moi, je l'avais aussi au primaire et en maternelle, on était avec un petit jardin qu'on essayait de faire pousser le plus possible, toujours sans engrais, etc. Et du coup, là, oui, là, tu parles d'écologie. On avait bien les gestes citoyens que t'écoutes à fond quand t'es gamin. Mais ouais, là t'avais, là franchement tu portes attention maintenant.
Donc tu penses qu'il faut plus de pratique.
Voilà, parce qu'en collège, lycée, quand on t'en parle, bon.
Collège, moi, il y avait au louer Dieu, il y avait la dominante science, non, comment ça s'appelle, sport environnement, et du coup, ils faisaient un jardin.
Moi, je pense que quand on nous parle d'écologie, on nous parle trop de choses à faire obligatoirement. Du genre, enfin, moi, je sais que parfois les gens, enfin, on leur dit, imaginons dans 100 ans, si on continue comme ça, c'est la fin du monde. Du coup, toi, tu penses à quoi? Tu penses au film catastrophe du genre 2012 ou des choses comme ça? Mais tu te dis, ouais, c'est de la fiction, ça n'arrivera jamais, on nous met la pression, mais c'est pas vrai. Du coup, au final, tu te sens pas concerné et en plus, tu te sens obligé de faire des choses, donc bah, tu fais rien.
Est-ce que l'un de vous a préparé une chronique sur les pays européens?
Oui, exactement.
Non.
C'est exactement ça. Alors moi, je te propose, Alexis, que tu fasses que tu donnes tes petites informations, et puis je vous poserai une ou deux questions par la suite. Ça te dit?
Oui.
Ça vous dit?
Allons-y.
Ouais.
Youpi, c'est parti.
Alors j'ai fait une recherche donc sur le nombre de semaines de vacances en primaire des différents pays européens. Pareil pour le nombre moyen de langues parlées. Et après, je l'avais dit, je l'ai fait.
C'est bien, on gère de toi.
donc le test de maths et de sciences des pays européens et même mondiaux, il me semble. Alors pour le nombre moyen de semaines, pour le nombre de semaines de vacances en primaire, à votre avis, combien est-ce qu'on en a en France?
Beaucoup trop.
8. Non, bah non, 12.
Plus?
Plus
de semaines?
De semaines.
Bah non, vas-y, dis, on va beaucoup pas... plus que 12, puisque déjà...
Noël,
bah, vas-y, dis, Alexis.
Bah t'en as déjà 8. Rien qu'avec les grandes vacances. Hein.
Et en tout, on en a deux fois plus, on en a 16. Pour une moyenne européenne de 15, donc on est une semaine au-dessus, donc
on
ça va.
On est posé.
Nous, on sévit.
Alors, le maximum, on n'est pas très loin non plus, c'est 18 pour la Russie et l'Ukraine.
C'est parce qu'ils sont trop froids, il faut absolument qu'ils se réchauffent. Ouais.
Par contre, le minimum, là, on est vachement loin, c'est le Danemark, avec seulement 11 semaines de vacances.
Ah bah, j'irai pas.
Bah, ça dépend après comment cool, les cours sont organisés derrière.
C'est vrai
si
que
si t'as 4 heures de cours par jour, moi je trouve ça cool. Hein.
Ouais.
Pas besoin de beaucoup de vacances. Ouais,
donc là on a les bosseurs. Après, par rapport à nos voisins, donc on a le même nombre de vacances, le même nombre de semaines de vacances que l'Espagne qui a 16 aussi. L'Allemagne, l'exemple pour les dirigeants français, ils sont à 15, donc à peine une de moins. Et l'Angleterre est à 14. Après, le nombre moyen de langues parlées.
En France, je crois qu'on n'est pas très bon. Hein.
Non, on n'est pas bon, je pense.
Non,
très mauvais, je crois.
En aucun point on est bon, vous avez.
On était merde partout.
Alors,
c'est
déjà,
bien.
On a plus de vacances. Après, pour le nombre moyen de langues parlées, donc en France, on est à 1,8.
Ah, j'aurais dit 2 quand même.
Et non, on est en dessous. Et la moyenne européenne, c'est 2,22. Donc encore une fois, on est en dessous.
Ah ouais.
Donc le minimum, Royaume-Uni, en même temps, ils parlent anglais, voilà, c'est bon, ils sont tranquilles. Ils ont 1,6, qui est égalité avec le Portugal. Par contre, le plus, je vous laisse deviner quel pays c'est et combien c'est.
Non, moi, je dirais les pays du Nord, genre, oui.
Je dirais le Danemark.
Norvège. Ouais, Norvège.
Non, Danemark, ils sont bons, mais c'est pas les meilleurs. Non, c'est même pas un pays du Nord.
C'est la Russie.
C'est un pays qui a dû,
Russie, c'est au Nord,
qui a dû être divisé et dont ils parlent plusieurs dialectes.
Alors,
dedans.
C'est un petit pays, quand même.
Ah, Suisse ou Luxembourg.
Ouais, bah,
Luxembourg.
Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais.
Et qui a combien de langues parlées?
Je suis trop bonne.
3,6.
Nous, on est quand même à deux fois moins, donc c'est un peu triste.
Pour
nos voisins, donc on a Royaume-Uni à 1,6, Espagne à 1,7, l'Allemagne qui a deux langues parlées, et le Danemark qui sont les bosseurs, ils sont quand même à 2,8. Donc voilà, en semaine de vacances, on a plus de semaines, mais on parle moins de langues, tout va bien. Et maintenant, le test de maths et de sciences qu'on avait pas mal entendu parler aux infos, donc l'épreuve Teams...
Moi, j'en ai pas entendu parler. Tu peux m'expliquer un peu?
Ben, c'est ce qu'il disait, qu'en fait, on est des brels en maths. C'est cool.
En fait, ça testait par un test commun le niveau en mathématiques de tous les élèves européens en primaire, je crois.
Mais test commun pour toute l'Europe ou...
Ouais, je crois.
Même plus que l'Europe. Hein.
Pour le monde entier?
Pour le monde entier. Donc, il y a un test en CM1 et aussi un test en Terminal S.
D'accord.
Donc, le dernier qui datait de 2015. Donc, déjà, pour le CM1, donc... ça fonctionne par points. Donc la moyenne internationale, c'est 500. La moyenne européenne, 525 points.
Donc on est bon en Europe.
En maths et en sciences. Sauf que nous, vu qu'on est des glandus, et ben on est en dessous, on est à 488 points en maths et 487 en sciences.
Ouais, mais bon, on n'est pas trop loin.
Donc, ben, on n'est pas trop loin, mais on est loin des pays gagnants, hein, qui sont quand même. Donc, les 5 gagnants, c'est Singapour, Hong Kong, la Corée, le Taïwan et le Japon.
Oh, mais là-bas, ils sont exploités.
Ouais, mais
oh.
qui ont quand même, qui ont quand même plus de 100 points de plus que nous. Donc, on est largement à la ramasse. Et nos voisins européens, hein, qui nous battent quand même avec entre 30 et 70 points d'avance. Qu'est-ce que je dis, moi?
Ouais, et donc en fait, on passe plus de temps à l'école, mais on est moins bon.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est triste. Ouais.
Et
comment ça se fait
Mais non, on passe moins de temps à l'école puisqu'on a plus de.
Oui, on passe moins de temps à l'école. Mais comment ça se fait?
Non, par rapport, par rapport à l'Allemagne.
Non, on a plus d'heures semaine.
On a plus d'heures semaine. On a pareil pour les vacances, mais on a beaucoup plus d'heures semaine.
On a plus d'heures dans la semaine que les autres pays, mais on a des moins bons résultats.
Mais comment ça se fait d'après vous?
Moi, je pense qu'on nous présente pas les maths comme il faut.
Mais toi, c'est bon, on a compris.
J'aime pas les maths, c'est bon, tu t'es trompé en allant en S, on a compris.
Moi, j'aime les maths, je suis en S.
Non, mais du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Non, mais je pense qu'on nous présente trop ça comme un truc d'intellectuel, en fait. Enfin, je sais pas, c'est un peu ça, pour moi. Voilà.
Moi, j'en sais rien. Tanguy ?
Ouais, je pense que c'est un éternel débat de pourquoi est-ce que les Français qui vont quand même en moyenne à peu près 35 heures au collège ou au lycée par an. C'est à peu près ça.
35 heures par an.
Par an, par semaine.
Ah, je comprends pas.
Ah non, 35 heures par an. J'ai pris marre, mais pas quand même.
Comment, pourquoi sont-ils aussi, on va pas dire mauvais, mais pourquoi sont-ils aussi à la ramasse quand même? Il y a plusieurs problèmes. Alors, d'abord, déjà, les 35 heures, c'est beaucoup. C'est un bourrage de crâne, un petit peu, comme on avait pu voir. Je pense au texte de Rabelais dans Gargantua, on a un bourrage de crâne des connaissances. Et après, il y a aussi le travail des professeurs et des maîtresses ou des maîtres au primaire qui n'est pas forcément toujours adapté. Et on est l'un des pays à avoir le plus gros taux d'absentéisme au niveau des professeurs aussi dans le monde. Hein. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire que pour avoir des bons résultats, il y a le travail de l'élève et il y a le travail du professeur qui est extrêmement important.
Ouais, je pense que tu as raison, en fait. Peut-être c'est parce qu'on est trop longtemps et du coup, on se concentre moins.
Ouais, on a un bourrage de crâne, c'est ça le problème.
Et on retient pas ce qu'on apprend.
Ouais.
Franchement, qui se souvient de ses cours de collège?
Ah oui, exactement.
À part ce qu'on nous a répété chaque année trois fois.
On comprend les compétences, mais on comprend pas... On retient pas les connaissances.
Et donc, comment est-ce qu'il faudrait rétablir
Je pense qu'il faudrait peut-être faire, par exemple, comme aux États-Unis ou alors en Australie, ou même en Espagne, je crois qu'ils finissent leurs cours super tôt. Surtout en Australie.
En Espagne, ils n'ont pas le choix à cause du temps, à cause de la température. Espagne, tout ferme à 15h.
Ouais, en Australie, c'est pareil.
Ouais, mais je veux dire, en Australie, par exemple, quand j'y suis allée je sais pas, à 14h ou 15h, on avait fini et du coup, les élèves allaient se détendre ou faire des autres activités, ce qui permettait de passer moins de temps à l'école et d'être plus concentrés.
Ils ont des jobs aussi en Australie.
Ouais, ils ont des jobs.
Ils ont des jobs de fou. Mais à propos de l'Espagne, l'Espagne, elle a autant d'heures de cours que nous, c'est juste qu'elle est décalée. Bah ouais, ils finissent à 18h30.
Mais ils commencent beaucoup plus tôt. Hein.
Ils commencent beaucoup plus tôt et ils ont eu juste une énorme pause au déjeuner.
Ils ont un gros trou.
En Allemagne, c'est pareil. Eux commencent plutôt vers 7h30 la journée et c'est sans pause jusqu'à 14h à peu près.
Et donc pour vous, ça serait dans les horaires?
Pas forcément, mais c'est une idée, ouais.
Bah, c'est un tout.
Parce qu'après, c'est vrai que sinon, on est. Par exemple, moi, quand je suis allée aux États-Unis, la pause du midi.
Elle a voyagé partout,
Claire. Ouais. Non, mais on commençait des cours à 7h et la pause du midi, elle était à 10h30. Alors, eux, ils mangeaient leurs hamburgers à 10h30.
Obésité.
Et après, ils finissent les cours, du coup, à 14h. Et ils mangent le repas du soir. Ils mangent le repas du soir à 16h. Donc, c'est vrai qu'en fait. C'est carrément un autre rythme de vie dans toute la journée, plus que le rythme de l'école, je pense.
Je propose de passer à une autre partie du débat, parce que...
Non, mais... Moi, j'ai encore ma chronique, hein, mais c'est pas grave.
C'est pour ça.
Si t'as pas envie de la fin...
Ah, mais non, mais pourquoi tu l'as pas terminée?
Je vous laissais parler, hein.
Oh, mais tout de suite,
parle,
allez,
Alexis.
Vas-y, termine ta chronique.
Alors, par exemple, au niveau CMA, on va voir si vous l'avez.
Alexis, il se fait victime.
Non, mais allez, vas-y.
Il y a un exemple de question qu'ils avaient, c'était de compléter la suite... 6, 13, 20, 27. Le prochain chiffre, c'est
Va pas laisser un trop gros blanc radio, s'il te plaît.
Ouais.
D'accord, donc vous n'avez pas le niveau SM, hein.
D'accord.
Je l'avoue, hein.
Il faut l'écrire.
Je pense que
la réponse, si vous n'avez pas compris, c'était 34. Et seul 59% des CM1 ont réussi à avoir cette réponse. Hein, vous, environ 0%.
Pourquoi 34
quand même.
Et c'est parce qu'il ne faut pas rajouter 9.
C'était non. 7, mais c'est pas grave. Alors,
c'est bien tenté.
La terminale S, elle est là.
Merde.
C'est après, un autre exemple de question que je vais pas pouvoir vous montrer, c'était entre 4 camemberts découpés en 8, il fallait trouver celui qui correspondait à 3 huitièmes et seuls 15% des jeunes petits Français. Bah, y a seulement 15% des Français qui ont réussi. Hein, quand même.
Ça ouais, m'étonne pas. Ça. Dès qu'on parle de bouffe, on lâche
tout. De toute façon, ils bouffent tout.
Bah, oui, c'est voilà. Vrai.
Après, on va voir le niveau des terminales S qui n'est pas meilleur, hein, Clémence.
Oh.
Alors.
Ah, je suis la
Allez,
alors
on
les
on
résultats
t'écoute.
Des terminales S qui sont relevés depuis 1995 et jusqu'au dernier de 2015. Donc en 20 ans, on a réussi à perdre 100 points en maths, 100 points en sciences vie. On est trop fort.
Putain. Bah ouais, mais pourquoi il y a que ça en maths, en sciences? Pourquoi il n'y a pas ça en français, c'est... dans les langues ou d'autres choses?
Il y a des autres tests comme ça, mais celui-là.
La logique, ouais. C'est universel peut-être.
Des autres textes, très cher.
S'en fout, j'ai fait la liaison, c'est bon. Attends, et toi tu me coupes pas, j'ai pas.
Oh, mais c'est...
Alors,
je te rappelle qu'on a bac blanc dans une demi-heure.
C'est bon, ça passe.
Stress.
Alors,
pas, chouchou.
Le test reconnaît 3 niveaux scolaires, avancé, élevé et intermédiaire. On est passé quand même en 1995 de 15% de ceux qui ont passé le test en niveau avancé, qui est maintenant à 1%. Et pour niveau élevé, encore pire, on est passé de 64% à 11%. Donc il reste quand même. Donc on a 12%, il en reste 88 en niveau intermédiaire, ce qui est vachement triste.
Oh mon gars. Donc, c'est la baisse du siècle, les Alpes, ça descend,
c'est la crise là.
Donc après, en haut de ce classement, donc la Russie et le Liban, donc mais qui ont des filières S plus sélectives, parce que nous c'est ouvert à tous, hein, regarde qui on retrouve dedans. Hein.
Oh. Je donc... ne relève pas la bave du crapaud, n'atteint pas la belle colombe que je suis.
La blanche
colombe.
Elle est blanche. Ouais bah c'est pas grave, elle est belle et blanche.
Donc après différentes solutions qui étaient apportées, il y en a une la plus importante, c'était d'augmenter le nombre d'heures de maths, ce qui est proposé surtout par la droite et par notre ami Fillon. Hein. Donc en CM1 on a quand même en moyenne 196 heures de maths dans l'année. Donc beaucoup plus que par exemple la Suède, la Finlande ou la Pologne qui ont quand même eu des meilleurs résultats. Et en terminale S, tu sais combien t'as d'heures de maths?
Beaucoup.
222.
Ouais, parce que. Ouais. Donc, ouais, bah, semaine, je suis à plus de 10 heures de maths.
Donc, juste. On est juste après le Liban qui est quand même arrivé premier du test. On est deuxième en nombre, mais on est moisi dans les résultats.
Il y a un problème d'efficacité là-dedans.
Oui, voilà. Oui, c'est ça.
La faute à qui?
Donc, vous. Donc, d'après vous, c'est un peu la faute aux horaires.
Pas
non,
que.
Pas non, pas que. On a pas
comme
dit
je
ça.
Disais, c'est un tout. C'est la manière dont on nous l'enseigne, c'est le nombre de personnes dans les classes, c'est les horaires mal répartis, c'est la manière dont on forme les professeurs aussi, ça joue beaucoup, les formations
vous
des
serez...
professeurs, il y a beaucoup à dire aussi là-dessus.
Parce que c'est vrai que par exemple les profs, quand ils sont pas vraiment formés sur le terrain, c'est souvent de la théorique, ou c'est comme ceux qui écrivent les programmes, ils sont pas vraiment en adéquation avec la réalité en fait.
Dès le début de l'année, le prof il nous dit: par contre, cette année, je vous préviens, on finit pas le programme. Hein, donc,
à chaque fois.
Les deux derniers, vous les aurez sur des polys que vous lirez chez vous.
Exactement. Ouais.
C'est vrai ça. C'est qu'il y a un problème dès le départ. Ouais.
Ouais. Je vous propose d'attaquer la prochaine partie. Ça va, Alexis, t'es d'accord?
Ah non, moi j'ai encore une page. Alors. Ah,
trop travaillé. Non, avec Clémence qui nous a préparé un petit boulot, c'est ça?
Ouais, pour une fois, j'ai bossé. Oh. Alors, donc moi, je vais vous parler de l'éducation des filles dans le monde, parce que bah, c'est vrai que c'est un truc qui me touche. Parce que je vois pas pourquoi les filles ne sont pas égales aux garçons. Je suis limite un peu féministe sur les bords. Donc alors, sur tous les enfants scolarisés dans le monde, il y a seulement un tiers qui sont des filles. Donc bon, voilà, la première inégalité. Après, sur 900 millions d'adultes analphabètes dans le monde, deux tiers sont des femmes.
Oui, mais comment expliquer ça?
Bah,
ça,
j'en sais rien. C'est...
Mais ça, c'est parce que les autres pays développés en fait, mettent encore
si,
les
si,
la femme
en fait,
de côté.
Je sais. C'est-à-dire qu'en fait, dès que les familles ont la prime enfant quand les femmes sont jeunes, au lieu de les mettre à l'école, on les laisse à la maison pour qu'elles s'occupent du ménage et des enfants. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'après, Par exemple, dans les pays où les femmes sont le moins scolarisées, on se rend compte qu'il y a un gros taux de décès infantiles, en fait. Et ce taux diminue quand on scolarise les femmes, parce que le problème, c'est que c'est les femmes, après, qui s'occupent de l'éducation des générations futures. Et donc, vu qu'elles ne sont pas assez éduquées, elles ne connaissent pas, par exemple, les normes de sécurité, pour éduquer leurs enfants, elles ont moins de critères, elles ont moins de notions derrière ça. Et du coup, en fait, c'est... Oui, Alexis ?
Je suis pas sûr que ça soit quand même l'éducation des femmes qui réduise les décès.
C'est la scolarisation des femmes.
Le nombre de décès infantiles,
parce
que
c'est
juste que la scolarisation des femmes augmente en fonction du développement. Ouais. Et c'est pareil pour les décès infantiles. Plus un pays est développé, moins il y a de décès infantiles.
Oui, mais justement, il disait qu'en fait, le niveau d'éducation des filles est le signe de degré de liberté et de démocratie d'un pays. Parce qu'en fait... Par exemple, la surnatalité baisse quand les femmes sont éduquées et vont à l'école et sachent qu'il y a des préservatifs pour se protéger. Et ils font pas des enfants à tort et à travers. Bah,
mais je pense pas que ça soit l'un entraîne l'autre. Je crois que c'est deux conséquences du développement d'un pays plutôt.
Moi, je suis assez d'accord avec Alexis.
Moi, je propose. Voilà, je propose un truc.
Mais j'ai pas fini.
Ah, mais tu proposeras après. On laisse les chroniques.
Et donc.
Très bien. Termine, Clément.
Après aussi, j'ai fait donc un petit classement un peu dans le monde pour savoir dans quel pays les femmes sont le moins scolarisées.
Me dis pas que là on est corps en bas de l'échelle.
Non, ça va. Le pire, c'est donc l'Afrique centrale, le Brésil, l'Asie du Sud et le Moyen-Orient. Donc le pire, c'est la Somalie, avec 85% des femmes de 7 à 16 ans qui ne sont jamais allées à l'école. 95%. En Somalie, au Niger 78 et au Libéria 77. Voilà, j'ai fini.
Non, je vois que t'as encore une page, mais je vous propose de découvrir la suite de la chronique de Clémence dans une prochaine émission. Ça vous dit ? Parce qu'en fait, il est l'heure. Hein ?
Oui, on voit, il est totalement l'heure.
Il est l'heure. Et puis, on a tous bac blanc, enfin à peu près.
Moi, je viens de le faire.
Ah. Ouais, mais les petites premières, il faut qu'ils bossent un peu.
Les petites premières, oh, suite. Donc, je vous propose de faire pour la première fois dans l'histoire de l'actualité une émission.
L'histoire avec un grand H.
Exactement. Mais voilà,
c'est surtout parce qu'il nous manquait Lisa et du coup, A. Monsieur Chouchou ne sait pas tenir à ta ligne.
Alors, voilà, c'est ça.
Alors, en parlant d'Elisa, parce qu'il nous reste encore 5 minutes, et c'était le sujet d'Elisa. Et du coup, Elisa, elle va se sentir triste si on ne parle pas d'elle.
Franchement, ça lui tenait à cœur.
Je vous propose de faire 5 minutes de silence.
Non, c'est ça. Elle est pas morte non plus. Mais je vous propose de faire la suite de l'émission dans la semaine prochaine. Voilà.
Exactement.
Avec puis, du coup, Elisa ressuscitée.
C'est Elisa qui tiendra ce débat. Voilà. Et nous aurons encore une fois Tanguy, puisque nous avions des questions pour Tanguy et nous n'avons pas eu le temps.
Il a servi à rien.
Nous aurons aussi, on va essayer de vous choper un élève surdoué, c'est ça ? On va essayer d'en trouver un.
Hein.
Après, on va inviter aussi.
On a déjà deux sur le plateau.
On va aussi. Ouais, c'est ça, mais n'importe quoi, les filles ici.
On va inviter Fiona.
On va essayer d'inviter un élève surdoué. On va le questionner, on va essayer de débattre avec. Et puis aussi, tous les. Qu'est-ce qu'il y a ?
Waouh !
Mais je connais un gars,
pas souvent.
On s'est pêché au Nouvel An, il est surdoué.
Oh là 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 !
À couper au mental.
Si vous permettez, on en parlera à la fin de l'émission parce que je vais pas trop faire de montage non plus.
Voilà, donc je vous propose de continuer le sujet et l'émission la semaine prochaine. Ça vous dit ?
Parfaitement.
Allez. Ouais.
Bisous.
Ouais.
Donc à la semaine prochaine, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Vous découvrirez aussi la suite de la chronique de Clémence.
Je l'ai fini.
Ah. T'as un problème avec les chroniques aujourd'hui, non ?
Oui, je pense aussi. Mais bah, vous c'est découvrirez dingue, hein. aussi l'interview que Elisa nous avait préparée pour aujourd'hui.
On va aussi faire
malheureusement
on
elle n'a pas
faire
pu
faire
passer.
On va aussi faire beaucoup d'interviews.
Et on espère
de sa maman.
Ah d'accord. Mais on espère aussi qu'il y aura le directeur de Bodimont, Monsieur Dursin, qui sera là peut-être pour nous dire un petit mot.
Oui, il n'y aura pas que lui, on va inviter beaucoup de monde, je pense.
Si j'étais auditeur, j'aurais déjà éteint depuis longtemps, là.
On invitera beaucoup de gens,
je crois que c'est le cas, t'inquiète
pas. Je vous propose de se quitter, voilà, sur notre générique qui déchire, encore une fois.
Bisous.
Voilà, à la semaine prochaine. Salut. Pour l'émission La Suite de l'Éducation dans le Monde. Salut.